VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 9 mai 2019. Eric Manila-Kidza et Nathalie Barge à la présentation. Voici d'abord les titres.
En Afrique du Sud, selon les résultats partiels, l'ANC arrive en tête des législatives et provinciales, mais avec un score en net recul.
Les députés togolais ont adopté la limite des mandats présidentiels. Le président Faure Gnassingbé pourra se représenter jusqu'en 2025.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme dénonce les conditions de détention dans des prisons du Congo-Brazzaville où une trentaine de détenus sont morts en une année.
Reprise des négociations commerciales à Washington entre les États-Unis et la Chine.
Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports.
Dans la nation arc-en-ciel, l'ANC arrive largement en tête des élections législatives et provinciales selon les résultats partiels. Conservant la majorité, l'ancien mouvement de la lutte contre l'apartheid devrait toutefois obtenir un score historiquement bas. Le point avec Patricia Huron à Johannesburg.
Le Congrès national africain, l'ANC, conserve comme prévu sa majorité au Parlement. Le décompte des votes est toujours en cours. Avec un peu plus de la moitié des suffrages comptabilisés, l'ANC obtient 56% des voix. C'est le score le plus faible jamais obtenu par le parti pour une élection nationale depuis son arrivée au pouvoir en 1994. L'ANC limite les dégâts. Il n'a pas essuyé non plus le revers prédit dans la province du Gauteng, qui comprend la ville de Johannesburg et la capitale Pretoria. Mais ce résultat reste un coup dur pour Cyril Ramaphosa. Le renouveau promis par le président n'aura pas suffi à enrayer la chute de l'ancien mouvement de la lutte contre l'apartheid. L'opposition continue de grignoter son électorat sans pour autant effectuer de percées. L'Alliance démocratique obtient un peu plus de 22% des voix, le même score qu'en 2014. Et le parti de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique, obtient 9% et s'impose comme la troisième force politique du pays. Patricia Lyon, Johannesburg, VOA Afrique.
Les députés togolais ont voté hier soir une révision constitutionnelle qui prévoit la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, mais permet au président Faure Gnassingbé de se représenter aux 2 prochains scrutins. Et Kiabadou nous en dit plus.
La réforme constitutionnelle a été approuvée lors d'un vote à bulletin secret par 90 députés présents sur 91. Le projet de révision est adopté s'il est voté à la majorité des 4 cinquièmes, soit 73 députés. Les 2/3 des membres du Parlement appartiennent au parti au pouvoir. La principale coalition de l'opposition avait boycotté les législatives en décembre dernier. Selon le nouveau texte, le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. La nouvelle loi instaure également un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours contre un seul actuellement pour élire le président. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a été réélu depuis dans des scrutins qui ont toujours été contestés par l'opposition. Par ailleurs, les élections des conseillers municipaux se tiendront le 30 juin. C'est une première car le Togo n'a pas tenu d'élections locales depuis 1987.
Les autorités locales du nord du Nigeria ont annoncé la division en 5 de l'émirat de Kano, réduisant ainsi les pouvoirs d'un influent émir, adversaire redouté des musulmans conservateurs. Mohamedou Sanusi II, qui était gouverneur de la Banque centrale avant sa nomination en 2014, n'hésite pas à remettre en question les traditions. Il avait notamment critiqué la polygamie et les familles nombreuses dans l'incapacité d'élever leurs enfants.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme dénonce les conditions de détention dans des prisons du Congo-Brazzaville où la répression se déroule à huis clos, estime l'ONG. Dans un rapport, le CDH fait état de la mort d'une trentaine de détenus entre 2017 et 2018, dont 9 dans la seule prison d'Ouesso, dans le nord du pays. Leur mort serait due à la malnutrition, selon les responsables pénitentiaires, a déploré Trésor Nzila, directeur de l'OCDH. Le rapport souligne par ailleurs le difficile accès aux prisonniers de haut profil.
Et dans le Nord Kivu, en RDC, un agent congolais de l'équipe de riposte contre la fièvre Ebola a été assassiné à Vuhovi dans la nuit du 7 au 8 mai, indique le ministère de la Santé. En février, un infirmier avait été enlevé et tué par des hommes armés dans cette zone. La 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août 2018 en Ituri et au Nord Kivu. Depuis, il y a eu 1069 décès et 442 personnes guéries, tandis que 267 cas suspects sont en cours d'examen selon les autorités sanitaires.
Des véhicules et du matériel agricole appartenant à l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe vont être vendus aux enchères pour éponger la dette d'une de ses fermes réclamée par un créancier. Selon une annonce de Ruby Auctions, parmi les véhicules proposés figurent notamment quatre gros pick-up, une berline Mercedes, des moissonneuses-batteuses, 10 tracteurs et un bulldozer. Monsieur Mugabe possède plusieurs domaines agricoles, dont la laiterie Gushungo, en violation de la loi qui interdit de posséder plus d'une ferme.
En Algérie, la secrétaire générale du Parti des travailleurs a été entendue ce jeudi en tant que témoin dans l'enquête pour complot contre l'État et l'armée ouverte contre le frère de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Luissa Hanoun a été convoquée au tribunal militaire de Blida pour être entendue dans le cadre de cette enquête contre Saïd Bouteflika, Atmar Tartag et Mohamed Medienne, arrêtés le 4 mai et incarcérés. Le mouvement trotskiste avait dénoncé sur son compte Facebook une campagne répugnante contre le Parti des travailleurs et sa secrétaire générale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, les négociations commerciales doivent reprendre ce jeudi entre les États-Unis et la Chine alors que les deux puissances se menacent mutuellement de nouvelles mesures protectionnistes. Le point avec Raissa Girondin.
Le vice-premier ministre Léo Rheu fera face aujourd'hui à son homologue Robert Lighthizer, représentant américain au commerce, pour cette session de tractation qui doit se poursuivre jusqu'à demain vendredi. Il y a quelques jours encore, elle était présentée comme la dernière avant un sommet destiné à sceller un accord historique entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Hier, le président Trump a annoncé dans un tweet que le vice-premier ministre chinois venait pour conclure un accord. L'administration américaine avait affirmé que Beijing était revenu sur ses principaux engagements, ce qui a été aussitôt démenti par le porte-parole chinois du ministère du Commerce. Les économistes et les institutions financières comme le Fonds monétaire international ont prévenu qu'un conflit commercial prolongé entre les États-Unis et la Chine constitue une menace pour la croissance mondiale.
Le pape François a dévoilé une législation obligeant les membres du clergé à signaler tout soupçon d'agression sexuelle ou de harcèlement et toute couverture de ces faits par la hiérarchie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Dans sa lettre intitulée « Vous êtes la lumière du monde », le pape François oblige tous les diocèses à mettre en place, d'ici un an, un système accessible au public pour dénoncer les abus sexuels. Selon la nouvelle législation, ces cas seront examinés dans un délai de 90 jours. Le souverain pontife a néanmoins souhaité que le secret de la confession demeure absolu, ce qui exclut une dénonciation de faits rapportés par un fidèle dans le confessionnal. Le texte condamne toute violence sexuelle en mettant l'accent sur celle faite à l'égard des mineurs et des personnes vulnérables. Le pape rappelle aussi qu'il est interdit de produire, détenir et distribuer par voie informatique du matériel pédopornographique. Il a précisé que la hiérarchie de l'Église est aussi condamnable en cas d'action visant à interférer ou à empêcher des enquêtes civiles, canoniques, administratives ou pénales à l'encontre d'un religieux. Cette nouvelle législation ne comporte cependant aucune obligation de signalement aux autorités judiciaires, sauf si les lois du pays rendent cela obligatoire.
La Corée du Nord a tiré deux missiles quelques heures après l'arrivée de l'émissaire américain pour la Corée du Nord qui est en visite à Séoul. Pyongyang a déjà effectué des tirs il y a moins d'une semaine. Washington et Séoul sont en train de procéder à des analyses. Officiellement, la Corée du Nord n'a pas procédé à un tir de missile depuis novembre 2017.
Moyen-Orient, le porte-avions américain USS Abraham Lincoln a traversé aujourd'hui le canal de Suez pour se diriger vers le Golfe. Ce déploiement intervient sur fond d'escalade des tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran. Le Pentagone a également annoncé le 7 mai dépêcher plusieurs bombardiers B-52 dans le Golfe. Téhéran avait répondu qu'il pourrait réagir en annonçant des mesures de réciprocité. Au-delà de cette escalade sur le terrain militaire, Washington a encore durci mercredi ses sanctions économiques contre le régime islamiste. De son côté, l'Iran s'est affranchi de deux engagements pris dans le cadre de l'accord sur son programme nucléaire.
Et au Royaume-Uni, le dirigeant du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, a averti les électeurs eurosceptiques qu'il risquait un Brexit à la Donald Trump qui provoquerait un choc économique menaçant des industries entières. Lançant sa campagne pour les élections européennes, M. Corbyn a invité les partisans d'une sortie sans accord de l'Union européenne à bien réfléchir. Les sondages donnent le parti du Brexit récemment créé, gagnant du scrutin du 23 mai prochain.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
En RDC, le ministère des Mines a approuvé le rachat du projet de cuivre Kalungwe par la compagnie chinoise Tianjin Mining pour plus de 78 millions de dollars. La mine Kalungwe, détenue à 85% par Nzuri Copper, devrait produire sur 8 ans une moyenne annuelle de 18 657 tonnes de cuivre et 1 370 tonnes de cobalt. En Angola, le président Lourenço a limogé le PDG de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. Carlos Saturnino est remplacé par Gaspar Martins, déjà au conseil d'administration. Depuis plusieurs jours, une grave pénurie d'essence paralyse le deuxième producteur de pétrole du continent. La Namibie veut mobiliser environ 40 millions de dollars en faveur des fermiers de la sécheresse. Les personnes affectées recevront une assistance alimentaire, des tanks d'eau et des facilités pour leurs activités. Les fermiers percevront des subventions et auront de l'aide pour l'organisation des récoltes. Terminons avec la firme londonienne Adevco qui s'engage à investir 3 millions de dollars dans l'agro-industrie au profit de la société sierra-léonaise Tradin Organic. Cela permettra à Tradin Organic de s'approvisionner en cacao durant les récoltes auprès de 20 000 agriculteurs. Adevco espère connecter près de 6 000 petits producteurs de cacao au marché pour des revenus globaux de 550 000 dollars en Sierra Leone.
Et on passe directement à la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous.
De remontada britannique et la presse salue le miracle réalisé hier par Tottenham en Ligue des Champions après Liverpool.
Oui Eric, vraiment c'était trop. C'était comme une hallucination du nord de Londres provoquée par les vapeurs de l'alcool. Écrit The Guardian, ils se sont sortis les tripes. Là il ne s'agit plus d'argent, il s'agit de gloire et Pochettino le sait. Ses joueurs l'ont incarné, poursuit le journal. Le Daily Mail a qualifié cet incroyable retournement de situation de second miracle. Après la qualification de Liverpool mardi à Anfield aux dépens de Barcelone. En face, le coup est dur pour les Néerlandais. Déception, peut-on lire ainsi à la une du quotidien des Télégraphes. Le compte de fait se termine pour l'Ajax sur le chemin de la finale, estime Volkskrant, parlant d'un tsunami d'attaque de Tottenham qui a déferlé sur la défense néerlandaise. Tottenham a renversé l'Ajax 3 de Amsterdam après sa défaite 1-0 à domicile à l'aller. En finale, les Spurs feront face au Red de Liverpool le 1er juin à Madrid.
Et on connaîtra aussi les finalistes de la Ligue Europa ce soir.
Oui, après sa victoire 3-1 face à Valence, Arsenal doit finir le travail en Espagne. En plus de leur avantage comptable, les Gunners sont d'autant plus motivés qu'une victoire en Ligue Europa représente leur meilleure chance d'accéder à la Ligue des Champions l'an prochain. En championnat, les Londoniens sont en effet distancés de 3 points par Tottenham dans la bataille pour la dernière place qualificative pour la C1 à une journée de la fin. Dans l'autre match de la soirée, Chelsea part avec un petit avantage du fait du but inscrit à l'aller sur le terrain de Francfort.
On risque d'avoir une autre finale britannique.
Absolument.
À 100%.
Absolument.
Et les playoffs qui touchent à leur fin ici aux États-Unis en NBA, Milwaukee est en finale de la conférence Est.
Oui Eric, Milwaukee s'est qualifié en battant pour la quatrième fois Boston sur le score sans appel de 116 à 91. Les Bucks se sont imposés 4-1 face aux Celtics. Ils disputeront leur première finale de conférence depuis 2001 face à Toronto ou Philadelphie. La franchise canadienne mène 3-2 avant le match numéro 6 qui aura lieu ce soir sur le parquet des Sixers. Sixers. À l'ouest, Golden State a perdu Kevin Durant sur blessure, mais s'est tout de même imposé face à Houston 105-99. Les doubles champions en titre mènent 3-2 et peuvent atteindre en 4 succès demain à Houston, la finale de conférence ouest pour la 5e année consécutive.
C'était l'espoir de Yakuba Ouedraogo et à demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza et Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Les députés togolais ont voté hier soir une révision constitutionnelle prévoyant la limitation du nombre de mandats présidentiels, mais qui permet à l'actuel président Fornia Simbe de se représenter en 2020 et en 2025. Cette révision constitutionnelle suffira-t-elle à décrisper la tension politique actuelle au Togo? Abdelrahman Dia a posé la question à Gilbert Bawara, membre du gouvernement et du parti au pouvoir, l'Union pour la République.
Il faut saluer cette importante réforme politique et constitutionnelle qui contribue non seulement à la consolidation de l'état de droit et au renforcement de la démocratie, mais qui est également de nature à favoriser le renforcement de la décrispation et de l'apaisement du climat politique et social.
Donc, effectivement, il y a la limitation du nombre de mandats et le second tour, qui est également maintenant une réalité, ce qui était une demande de l'opposition. Vous pensez que ça suffira à contribuer à la décrispation du climat politique?
Maintenant, il s'agit de voir quels étaient les vrais objectifs de certains acteurs politiques et de certaines organisations dites de la société civile. Si la finalité était de contribuer à améliorer la démocratie, à faire avancer l'état de droit au Togo, à faire en sorte qu'un certain nombre de règles est appliqué dans d'autres pays, la limitation des mandats, le mode de scrutin, une cour constitutionnelle représentative de différentes forces politiques et sociales. Si c'était ça l'objectif et la finalité que poursuivaient certains acteurs politiques, à partir de ce moment-là, on ne devrait plus avoir de remous et puis les réformes qui ont été adoptées devraient plutôt être saluées, soutenues.
Mais monsieur le ministre, l'opposition demandait tout de même que le président ne se représente pas aux élections car ayant déjà fait 14 ans au pouvoir.
Vous savez, je disais que les réformes constitutionnelles qui viennent d'être opérées sont le fruit d'un consensus. Parce que toutes les initiatives qu'il y a eu ces dernières années, qu'il s'agisse des différents cadres de dialogue et de concertation, les recommandations qui en étaient issues, qu'il s'agisse des travaux de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation ou des recommandations du Haut Conseil de la Commission pour la Réconciliation Nationale. Et toutes ces initiatives-là avaient une quintessence que les Togolais souhaitaient la limitation des mandats présidentiels et la modification du mode de scrutin. Non pas pour cibler un individu ou un concitoyen particulier, mais de manière générale. Et ensuite, cette réforme est en adéquation avec les principes généraux du droit et la jurisprudence qu'on a connue au Sénégal, au Burkina Faso, en France. Et cette jurisprudence et ces principes généraux du droit disent et stipulent qu'une réforme dispose pour l'avenir. C'est pourquoi ce débat-là, c'est un débat...
Ils ont mis le moment pour le dire, ils ont mis plus...
Gilbert Bawara du parti au pouvoir au Togo, joint à Lomé.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée nigériane a interdit la circulation des mototaxis dans la région du nord-ouest du pays. Cette mesure vise à éliminer le banditisme, les enlèvements et d'autres activités criminelles dans cet état. Kaduna, Kano, Kebbi, Katsina, Sokoto, Zamfara et l'état du Niger. La décision des autorités militaires passe assez mal chez les conducteurs de mototaxis et les utilisateurs. Voici un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Roulant sur les trottoirs et entre les voitures, empruntant des sens interdits et transportant parfois une famille entière, les mototaxis restent un moyen de transport incontournable au Nigeria. La capitale fédérale Abuja n'est pas épargnée. Ils servent de moyens de transport rapide pour les populations de ces banlieues. L'armée nigériane tente désormais d'interdire l'utilisation de mototaxis dans sept états du nord-ouest. Les autorités militaires expliquent que la mesure vise à lutter contre l'insécurité grandissante au Nigeria. Mais les conducteurs de mototaxis ou okada qui gagnent péniblement leur vie en transportant des passagers dans des embouteillages légendaires et dans des villages estiment que la décision est inacceptable. Mohamed Azigma est le président du syndicat des transporteurs de mototaxis à Lugbe, une banlieue d'Abuja.
Si le gouvernement veut interdire les mototaxis dans ces états, il doit d'abord trouver un moyen pour aider ceux qui seront affectés afin de pouvoir nourrir leur famille. Mais si rien n'est prévu pour aider ces gens, que vont-ils faire pour se prendre en charge?
Okada est un moyen de survie pour nous et nos familles, affirme Mustafa Haruna Aliou, conducteur de mototaxi.
Mais pour quelles raisons? Comment je vais manger si c'est moi et comment m'occuper de mes enfants? J'ai 4 enfants et une femme. Pas de travail. Avant, j'étais un vendeur à l'école primaire de Lugbe. Mais le même gouvernement nous a dit de quitter. Ils ont ramassé ma marchandise. Ils nous ont chassés. Donc, c'est pour cela que je suis allé acheter une moto.
Pour Steven Oluwafemi, qui emprunte tous les matins Okada pour se rendre à son lieu de travail, les populations des États affectés auront d'énormes difficultés sans ces moyens de transport rapides et moins coûteux.
Ils seront sérieusement affectés parce que nous avons des problèmes chaque jour dans nos lieux de travail. Lorsque vous êtes en retard, vous avez des problèmes. Donc vous voyez à quoi il faut s'attendre. Il y aura plus de problèmes pour eux. Et dans certains cas, beaucoup vont perdre leurs emplois et cela n'est pas bien.
Selon les autorités, 70% des criminels utilisent des mototaxis ces dernières années au Nigeria pour perpétrer des assassinats dans les parties nord-est et nord-ouest du pays où sévit le groupe des combattants de Boko Haram. Cependant, Stanley Chukuma pense que les autorités doivent envisager d'autres mesures.
Le gouvernement doit envisager d'autres mesures concrètes, des mesures qui pourront mieux les aider et laisser ces gens tranquilles. Ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. Le gouvernement sait ce qui se passe et refuse de trouver une solution. Ils doivent trouver une solution et laisser les conducteurs de mototaxi tranquilles parce que ce sont ces gens qui assistent les populations.
Les lois déjà en vigueur, comme le port des casques de sécurité et l'interdiction de conduire en sens interdit, ne sont ni appliquées ni respectées par les conducteurs de mototaxis. On estime à plusieurs millions de jeunes Nigériens et certains d'entre eux des diplômés sans emploi qui font le transport à mototaxi. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La population de Gao dans le nord du Mali est confrontée à des températures qui avoisinent les 50 degrés. En plein ramadan, pour les musulmans de la région, c'est le calvaire. En plus de la chaleur accablante, ils sont contraints de supporter le manque d'eau et d'électricité et la hausse des prix sur le marché. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Les fidèles musulmans qui ont entamé leur carême, certains déjà le dimanche 5 mai dernier, d'autres le lundi, vivent dans des conditions pénibles. À ces fortes températures qui vacillent entre 47 à 50 degrés à l'ombre, s'ajoutent les coupures d'électricité et le manque criard d'eau à certains endroits, comme le témoignent les personnes interrogées dans la ville de Gao.
Moi, d'abord, je suis dans un quartier qu'on appelle Alejandabanja, un quartier très, très, très difficile. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Et nous, ça nous fait près d'un mois que les robinets ne coulent pas. Il faut faire de la gymnastique tous les jours avec des bidons, des seaux d'eau. Les femmes, les enfants, tout le monde, il faut courir par-ci, par-là, pour avoir un petit seau d'eau, rien que pour préparer la brèche.
Le mois de ramadan, nous le recevons comme ce sont les règles de Dieu. Nous sommes obligés de supporter. Sinon, vraiment, c'est avec très grande souffrance parce qu'il fait très chaud à Gao. Et le malheur encore, avec les coupures de courant, le manque d'eau, qui vraiment, ça nous préoccupe sérieusement. La pomme de terre de 500 francs, c'est revenu à 600. Le poisson qu'on croyait que ça allait mieux. C'est la même chose. Et c'est tous les produits. Généralement, à Gao, ça a toujours été comme ça. On attend jusqu'au mois de carême pour augmenter, pour avoir le million. Alors que ce mois, c'est pas pour cela.
Le mois de carême, c'est un mois béni par Allah le Tout-Puissant. Et tous les musulmans qui sont en parfaite santé doivent le faire, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Donc les gens vivent dans des conditions très très difficiles, à savoir la chaleur. Là où nous sommes présentement, nous sommes à 47 degrés Celsius. Bien vrai que nous sommes en train de chercher des choses pour qu'on puisse trouver l'au-delà. Vraiment, c'est pas du tout facile. Les gens sont dans les mosquées et il y a coupure d'électricité, donc on parvient même pas à véhiculer le message d'Allah comme il le faut. Donc tout ça, c'est des problèmes auxquels les musulmans sont confrontés ici à Gao.
On remercie les Bongui, on a commencé le mois de Kerem, mais on a commencé ça avec le plus difficile vraiment parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Donc maintenant, nous, on a que le flot seulement face toute la journée au flot, mais on est obligé parce que nous sommes des musulmans. Donc on va tout confiance au bon Dieu, Inch'Allah, ça va aller.
Le mois béni de Ramadan où les fidèles musulmans doivent s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil est une occasion pour les musulmans de Gao de prier en faveur de la paix et de la sécurité au Mali. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Ici aux États-Unis, le New York Times rapporte que le président Donald Trump a déclaré au Service national des impôts des pertes de 1 milliard 200 millions de dollars pour ne pas payer d'impôts sur le revenu sur plusieurs années. Les démocrates réclament depuis longtemps les déclarations de revenus de Monsieur Trump. Sur le fond judiciaire aussi, il n'y a aucun répit depuis la publication du rapport Mueller. Le point avec Lionel Gaïma.
Le New York Times rapporte qu'entre 1985 et 1994, les entreprises de Trump ont perdu 1,2 milliard de dollars, plus que tout autre contribuable américain. Cela lui a évité de payer d'impôts pendant au moins 8 ans. Rudy Merbani du Centre Brennan pour la justice.
Peut-être que ses fiches d'impôts pourraient montrer qu'il n'est pas aussi riche qu'il le prétend, ce qui contredirait l'un de ses principaux arguments lorsqu'il battait campagne pour la présidence.
Les démocrates réclament depuis longtemps les déclarations d'impôts de Trump pour voir s'il y a conflit d'intérêts dans ses relations avec les entreprises étrangères ou s'il a triché. Monsieur Trump a toujours refusé.
Ils veulent connaître chaque transaction que j'ai menée. Maintenant, je suppose que Mueller, pour 35 millions de dollars, a vérifié mes impôts et mes finances qui, soit dit en passant, sont excellents.
Mercredi, une autre bataille s'est ouverte. Les démocrates de la Chambre cherchent à condamner William Barr, le ministre de la Justice. Il a refusé de fournir le rapport non expurgé du procureur spécial sur une prétendue ingérence de la Russie dans l'élection de 2016 et une possible entrave à la justice de la part du président américain. Jerry Nadler, président de la commission judiciaire de la Chambre.
Nous y sommes maintenant. Nous sommes en pleine crise constitutionnelle.
La Maison-Blanche a bloqué le vote en affirmant le privilège de l'exécutif. Pour des démocrates, le président peut dissimuler certaines informations sensibles au public. Tout cela peut conduire à une nouvelle bataille juridique prolongée. Todd Belt de l'université George Washington.
Chaque fois que nous arrivons à de pareilles situations, la confiance au gouvernement baisse. Et les gens voient que le gouvernement se bat en son sein. Au lieu de servir la population, alors que nous nous dirigeons vers une élection présidentielle.
Les refus de Trump de se conformer aux assignations à comparaître du Congrès ont multiplié les appels à la destitution. Mardi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a même accusé le président de pousser les démocrates à entamer une procédure de destitution afin de consolider sa base.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sims Lumami, à la console, Nelson Lopez, à la présentation, Eric Manirakiza et Nathalie Barge.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Au revoir et très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Et tout de suite.